Merci à toute l'équipe de louanges. Eh bien, on espère que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu vous a béni. On réalise qu'il arrive des situations difficiles dans certaines familles et on veut vraiment prier pour vous. Alors, ne vous gênez pas de laisser soit téléphoner à l'Église ou par courriel et tout ça, de nous envoyer des requêtes de prière. On veut vraiment prier pour vous. On vous a à cœur, on vous aime et on veut certainement être en famille, se soutenir les uns les autres. Donc, gênez-vous pas. À tout moment où vous voulez qu'on prie pour vous, dites-nous-le, d'accord? Ça va nous faire plaisir. Et commençons déjà avec la prière, si vous voulez bien. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce qu'on sait que tu es ici, tu es présent, tu es vivant. On veut te louer parce que tu nous chéris, tu nous aimes comme d'une façon tout à fait unique. Personne ne nous aime comme à ce point. Ton amour est parfait. Et Seigneur, il y a des gens dans l'Assemblée qui vivent toutes sortes de choses, soit au niveau de la santé, soit au niveau avec les enfants, les drames et toutes sortes de choses ici et là. Avec une grande Assemblée, c'est certain, Seigneur, qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent à nos oreilles. Et on te prie que tu puisses mettre ta bonne main sur les familles ici qui passent à travers ces moments d'épreuve, ces moments de difficulté. Accorde-leur la grâce, Seigneur, soutiens-les, encourage-les surtout, qu'ils se collent à toi. Et en même temps, pour chacun d'entre nous, indépendamment de notre situation, nous voulons marcher avec toi parce que tu nous as touchés, tu as saisi notre cœur, tu nous as fait réaliser à quel point tu nous aimais. Et en retour, Seigneur, on veut te servir, on veut t'obéir, on veut te plaire. Alors on te prie ce matin que tu puisses disposer nos cœurs à comprendre le message que tu veux nous livrer à travers ta parole. Et merci pour ta parole, comme on vient de le chanter. Cette parole qui est inspirée, cette lettre d'amour qui vient de toi, au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme qui voulait savoir, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec sa vie. Il voulait vraiment servir le Seigneur, il voulait que sa vie compte. Et puis, il se demandait vraiment ce qu'il pouvait faire pour servir Dieu avec le temps qu'il avait. Alors, il est allé voir Martin Luther et lui a demandé, justement, comment il pouvait servir Dieu. Et il s'attendait vraiment à avoir une réponse profonde et très spirituelle, comme « laisse ton emploi puis va-t'en comme missionnaire ». Et c'est ce qu'il s'attendait. Mais Martin Luther l'a vraiment surpris lorsque Martin Luther lui a posé cette question, lui a demandé, il dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Qu'est-ce que tu fais comme travail, présentement? » Ben, il dit « moi, je fais des souliers. Je fabrique des souliers, je travaille un soulier. » fait que Martin Luther, il a dit, bon, ben d'accord. Il dit, fais des bons souliers et vends-les à un prix raisonnable. Le gars était vraiment surpris de la réponse de Martin Luther. Mais Martin Luther ne lui a pas dit de quitter son emploi ou d'aller en mission. Parce que Martin Luther, le message qu'il était en train de lui dire, c'est que tu peux servir le Seigneur là où tu es, dans ton milieu, dans ton travail. Et c'est ce que Dieu veut. De temps en temps, oui, Dieu va appeler une personne ou deux ici et là pour aller en mission, absolument. Mais ce n'est pas l'appel de la masse. Dieu veut se servir de vous où vous êtes pour vraiment être un flambeau, un témoignage de Jésus-Christ. Là où vous êtes, dans votre métier. Et Dieu veut bénir ça, et c'est sa volonté, ça. Et ce qui compte, c'est de travailler fidèlement, faire un bon travail, plaire à nos employeurs, se donner, s'engager et le faire avec intégrité. Comme chrétien, on peut servir Dieu fidèlement là où nous sommes, dans plein notre milieu de travail ou dans notre milieu, en travaillant de manière à l'honorer, en cherchant à honorer Dieu, en marchant dans l'intégrité et l'honnêteté. Vous savez, l'intégrité, c'est un puissant témoignage. C'est tellement puissant que certains musulmans se sont même convertis devant le témoignage de l'intégrité de certains chrétiens. On a fait un sondage, il y a des gens qui ont fait un sondage aux États-Unis auprès de 750 musulmans qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Puis, ils étaient curieux parce que lorsqu'un musulman se convertit à Jésus-Christ, ça a tout un impact dans sa famille. Il est même rejeté tout ça dans certaines familles. Pas tous, mais dans certaines familles, c'est quand même assez dur. Alors, ils voulaient comprendre qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à vous convertir? Qu'est-ce qui vous a attiré à Jésus-Christ? Puis, il y a 9 raisons qui sont sorties, qui les ont incitées, qui les ont inspirées finalement à faire ce pas de foi et aller vers Jésus-Christ. 9 raisons. Laissez-moi juste vous mentionner la première, parce que la première est vraiment intéressante. La première raison qu'ils ont donnée, c'est que les chrétiens pratiquent ce qu'ils prêchent. Ça les a vraiment étonnés. Maintenant, il y a d'autres raisons, c'est vraiment intéressant, comme le mariage. Ils étaient attirés par le mariage des chrétiens, l'amour qu'il y avait, la non-violence et tout ça. Il y avait plusieurs raisons, là. Mais moi, j'aimerais m'arrêter sur la première raison. Les chrétiens pratiquent ce qu'ils prêchent. C'est vraiment fascinant. Là où tu es, dans ton travail, ton intégrité, peut vraiment avoir un impact autour de toi, parce que c'est un beau témoignage qui est puissant. Un témoignage que Dieu veut servir là où tu travailles. Être un bon employé, être un bon employeur. C'est fascinant. Au Caire, par exemple, la capitale du Caire, de l'Égypte plutôt, ça s'appelle le Caire. Ça a une population de plusieurs millions de personnes, plusieurs habitants. Puis vous pouvez comprendre qu'avec une telle densité de population, on parle de millions de personnes, la gestion des ordures est délicate. C'est pourquoi on se sert des services de vidangeurs bon marché pour se débarrasser des tonnes et des tonnes de poubelles. Et ce que les gens font, c'est que ces vidangeurs, il y a plusieurs milliers de vidangeurs, et ce qu'ils font, c'est que chaque matin, les vidangeurs vivent dans une petite ville, juste à côté, collée au Caire. Et chaque matin, au lever du soleil, plus de 7000 vidangeurs vont quitter leur petite ville qui est juste annexée, collée au Caire, pour se rendre au Caire, puis ramasser les poubelles toute la journée, pour finalement, à la fin de la journée, revenir dans leur petite ville, une petite ville qui est à côté. Et ils vident le Caire des poubelles de la journée dans cette ville qui s'appelle la ville poubelle. La ville poubelle. J'ai même des photos que j'aimerais vous montrer ce matin. Quelques photos. Regardez, c'est la ville poubelle. Il y a des gens qui restent là. Il y a des gens très pauvres. Ce sont les plus démunis des démunis qui vivent là, dans cette ville poubelle. Les enfants sont là, ils s'assoient là, et vous pouvez imaginer là, toutes les bactéries, tout ça. Ils vivent là-dedans. La ville poubelle. Et c'est comme ça qu'on transporte, les 7000 vidangeurs vont transporter les poubelles, vont aller au Caire justement chaque matin, aller ramasser les poubelles sur ces petits chariots, puis vont à la fin de la soirée, vont retourner à la maison dans cette ville poubelle. Et ils laissent leurs poubelles là dans leur ville. Et la première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils arrivent dans cette ville, vu que c'est les plus démunis des démunis, les plus pauvres des plus pauvres, les plus rejetés des rejetés, et ce qu'ils vont faire dans leur ville, arriver au soir, ils vont commencer à faire le tri. Maintenant, il y a des restrictions assez précises chez les musulmans pour le tri. Alors, c'est la raison pour laquelle ces gens-là peuvent faire du tri parce qu'ils sont composés, les citoyens ici dans cette ville poubelle sont composés principalement de gens de non-croyants, non-religieux, mais aussi il y a des chrétiens. Il y a vraiment des chrétiens, des gens qui aiment le Seigneur. Il y a des disciples de Jésus-Christ dans ces villes, dans cette ville poubelle-là. Un jour, il y a un homme d'affaires au Caire, justement, qui a perdu sa montre, une montre qui valait plus de 11 000 $. Et il avait perdu sa montre. Et vous pouvez comprendre que le soir, lorsqu'on arrive, lorsque ces vidangeurs arrivent dans leur ville, ils font le tri de toutes les poubelles pour savoir qu'est-ce qui pourrait être utile, parce que c'est des gens très pauvres, alors ils vont faire le tri. Alors vous pouvez comprendre que s'il y a un objet que les vidangeurs, ces gens qui vivaient dans cette ville, qui vivent dans cette ville poubelle, s'il y a un objet qu'on pensait pas retourner, ça serait bien une montre de 11 000 $. Mais quelle ne fut pas la surprise de ce jeune homme d'affaires lorsqu'il reçoit la visite d'un homme âgé, avancé en âge, qui est habillé en guenille, qui vient lui porter sa montre, vient lui remettre sa montre. Et il a dit au monsieur, voici ce qu'il a dit. Il dit, « Mon Jésus m'a dit d'être honnête jusqu'à ma mort. » Maintenant, cet homme-là fut tellement touché par l'intégrité de cet homme-là, qui est un enfant de Dieu, tellement touché et saisi par le témoignage de cet homme, que ce gars-là tranquillement était attiré et curieux d'aller voir la Bible. Il raconte à un journaliste plus tard, il dit, « Je ne connaissais pas Jésus, mais j'ai dit au vidangeur que j'ai vu Jésus en lui. » Alors, imagine-toi donc un vidangeur, un métier de vidangeur, qui est un témoignage puissant de l'Évangile. Puis là, on parle de vidangeur vraiment dans une ville. C'est dur le métier de vidangeur. Je les vois travailler le matin et tout ça, c'est dur. Mais imaginez là-bas, là, tu vis dans les vidanges. Là. Alors le monsieur, lors de son entrevue, il dit, « J'ai dit au vidangeur, grâce à ce que tu as fait et ton exemple, je vais adorer le Jésus que tu adores. » Et l'homme d'affaires a grandi dans sa foi. Il a commencé à étudier la Bible. Et lui et sa femme ont commencé à avoir un ministère auprès des démunis. Un ministère d'entraide physique, mais aussi spirituel. Il s'est investi autant pour aider des besoins physiques que spirituels. Et même plus tard, il a grandi dans sa foi. Il est allé étudier les Écritures, la Bible et tout ça, puis il est devenu un ouvrier, un pasteur. Et il sert le Seigneur dans une église maintenant. Touché, saisi par le témoignage d'un vidangeur qui était intègre. Et moi, c'est ça que j'aimerais vous parler ce matin, de l'intégrité. L'intégrité. Les chrétiens pratiquent ce qu'ils prêchent. C'est frappant de constater comment vivre ce que l'on prêche peut avoir un effet tellement puissant chez les gens autour de nous autres. Et peuvent même les attirer à l'Évangile. Les gens veulent voir l'intégrité. Et c'est ce qu'on veut voir ce matin. C'est l'un des fruits de l'Esprit, un des composants du fruit de l'Esprit. Par exemple, dans Galates 5, 22, ça dit ceci. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. » Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur deux mots, la bienveillance et la foi. La bienveillance et la foi. La foi ici, qui littéralement dans l'original, peut être aussi traduit par fidélité, parce que c'est la même chose, c'est le même concept. La bienveillance ici signifie, le lexique va expliquer que ça signifie droiture. La droiture, être droit, être vrai, être intègre, une question d'intégrité, de sincérité, d'être vrai. Oui, on va voir parfois la traduction par bonté, gentillesse, et ça peut aussi être traduit par ça, mais l'idée dans l'original, il y a une idée qui ressort, qui est bien importante à souligner ici, et sur laquelle on veut mettre l'accent, c'est cette idée de droiture, d'intégrité. C'est de ça qu'on veut parler. Comme foi, la même chose. Parce que foi, dans l'original, aussi peut se traduire par fidèle. Marcher selon des convictions, être loyal, fiable. Voyez, on parle essentiellement de la même chose, les deux, et c'est pour ça qu'on veut les regarder ensemble, parce que les deux sont interreliés. Ces deux qualités signifient, en fait, mener une vie centrée sur la vérité. On parle de vérité, tout ça, ici. Et un passage qu'on veut lire ensemble ce matin, puis on va s'arrêter un petit peu là-dessus, qui va nous aider à comprendre cette dimension-là, comment c'est un fruit de l'esprit, comment on a besoin de poursuivre l'intégrité dans tous nos milieux, c'est dans 1 Jean. Alors, si vous voulez bien tourner dans 1 Jean, chapitre 1, juste au premier chapitre pour le moment, puis on va traverser au chapitre 2, on va lire un passage qui va commencer au verset 5. Donc, 1 Jean 1, et on commence la lecture au verset 5, puis on va poursuivre au chapitre 2 quelques versets. 1 Jean 1, 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Verset 8, 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Chapitre 2, mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Laissez-moi vous expliquer un peu ce qui se passe avec Jean ici et la raison pour laquelle il écrit sa lettre. On n'ira pas vraiment longtemps dans ça. Mais une des raisons pour laquelle Jean va écrire sa lettre, c'est qu'il circulait il y avait une fausse doctrine, un mensonge qui commençait à circuler dans l'Église, et malheureusement, c'est devenu pas mal plus sophistiqué, rendu au 2e et 3e siècle. Ça s'appelle le gnosticisme. C'est un gros mot, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que tu peux pas mal vivre la vie que tu veux, c'est pas vraiment grave. Parce que cette idée-là, l'idée derrière le gnosticisme, c'était vraiment embryonnaire dans le temps de Jean, mais Jean est obligé de l'adresser. Il va corriger ses fausses doctrines, ses fausses pensées, cette idéologie, cette vision du monde et de la vie. Il est obligé de l'adresser. Et il va le faire même durement par moment. On va voir certains versets assez rapidement. Mais l'idée essentiellement, c'est qu'eux autres, ils séparaient vraiment le matériel d'avec le spirituel. Ils disaient que ton corps, c'est du matériel, c'est mal, c'est pas bon. Et il mettait beaucoup d'accent sur le spirituel. Donc, il divisait vraiment les choses. Tu peux aller à l'église et tout ça, ça c'est une dimension spirituelle, etc. Mais pas mal, tu peux vivre, tu peux tromper ta femme, tu peux pas mal vivre comme tu veux, et faire ce que tu veux à ton travail, tout ça, être malhonnête, c'est pas grave, parce que ça, c'est matériel, c'est mal. Alors, vous pouvez comprendre que ce genre d'idéologie-là s'est infiltré, ça a même eu un impact sur leur vision de Jésus-Christ. Les autres disaient finalement que Jésus, l'homme, ça, c'était pas vraiment Dieu, c'était pas le Fils de Dieu, mais Christ est arrivé au baptême de Jésus, Christ qui vient, qui est éternel, lui est spirituel, il serait venu sur cet homme, Jésus, qui est matériel, qui est chair, puis il a vécu au cours de la vie de Jésus, puis rendu à la croix, le Christ a quitté, puis est allé au ciel, puis Jésus, dans le fond, c'est un corps, c'est matériel, c'est négatif. Alors, ça a eu tout un impact, si bien que ça l'a déchiré vraiment l'Église rendue au 2e et 3e siècle. Ça s'est répandu pas mal. Mais là, on voyait un peu le balbutiement, le début de cette fausse doctrine là, qui s'infiltrait tranquillement dans l'Église, et Jean va adresser ça. Mais dans le fond, quand tu regardes aujourd'hui, c'est pas mal ce qui se passe. Tu peux aller à l'Église aujourd'hui, dans le monde, tu peux aller à l'Église, mais la semaine, tu peux tromper tes impôts, tu peux prendre des salaires en dessous de la table, tu peux faire ce que tu veux. Dans le fond, c'est pas aussi sophistiqué, on n'appellera pas ça le gnosticisme, mais c'est la même, au bout du compte, c'est pas mal la même philosophie. C'est, tu peux mener une double vie, et c'est pas grave. On donnera pas les mêmes raisons, ça sera pas aussi sophistiqué, mais c'est essentiellement la même chose. Et ce que Jean veut faire, il veut corriger cette notion-là qui circulait déjà à l'époque, où on commençait à couper vraiment la façon que tu vis et ce que tu crois. Et Jean va répondre à ça. On peut voir des versets, par exemple, 1 Jean 2, 22, qui va dire, « Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. » Donc, vous voyez cette division, on va morceler vraiment là, comme Jésus et le Christ, les deux. Alors, Jean dit, écoute, c'est un menteur. Ceux qui propagent cette doctrine-là, ce sont des menteurs. Il dit, « Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. » Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 4, 2, va dire ceci, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tu veux savoir c'est quoi la vérité? Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, Jésus-Christ, venu en chair. Donc, pour eux, la conception de la chair, c'était matériel, mal, c'était pas bien. Mais lui, il dit non. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Alors, vous voyez ces corrections qui se faisaient à l'intérieur de la lettre d'un Jean. Parce que pour eux autres, pour le gnosticisme, la chair était mal. Il n'y avait rien de bon avec la chair. Alors, Jean adresse ces questions-là. Et parfois, il va se faire pas mal insistant. Par exemple, un autre passage, verset 4, le passage qu'on vient de lire tantôt, 1 Jean 2, 4, ça dit ceci. « Celui qui dit, je l'ai connu. » Donc, celui qui prétend être un chrétien, un enfant de Dieu, un disciple. « Celui qui dit, je l'ai connu. » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point dans lui. En lui, en d'autres mots, il n'y a pas d'intégrité. On peut pas diviser ta vie privée, publique, professionnelle, religieuse. On peut pas diviser ça en morceaux. Tu veux être intègre dans tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas croire une chose et vivre autrement. Alors Jean commence à mettre l'accent sur l'obéissance. Il va parler d'obéissance. La vérité qui œuvre, et c'est ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité est en toi. Si tu dis que la vérité, tu as connu la vérité, tu l'as en toi, la vérité qui œuvre en nous va produire un fruit qui est l'intégrité. Une personne intègre, c'est une personne qui n'a pas deux faces. C'est une personne qui n'agit pas avec duplicité. Jésus nous dit que la même vérité qui va gouverner ta vie privée va également gouverner ta vie professionnelle. La façon que tu es un employé, comment tu vas travailler envers ton patron, ça doit être aussi, doit avoir une intégrité là, c'est pareil que quand dans ta vie privée. Alors c'est quoi une vie intègre, une vie centrée sur la vérité? Eh bien, on va commencer d'abord en regardant ce que la Bible enseigne sur la vérité, puis ensuite on va regarder comment avoir la vérité dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça l'implique quoi? En d'autres mots, comment devenir une personne plus intègre, bienveillante et fidèle? Verset 5, 1 Jean 1, 5, on a lu tantôt au début, dit ceci, « Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. » Maintenant, c'est une affirmation qui est assez profonde. Verset 8, un peu plus loin, quelques versets plus loin, dit ceci, « Jean parle d'avoir la vérité en nous. » Il faut savoir que lorsque Jean parle de la vérité, ce qu'il entend, c'est une question d'absolu, de non négociable. Dans sa pensée à lui, là, c'est des certitudes, des convictions. En contraste avec ce qui est relatif. Dieu est la vérité. Et ça, s'il y a une chose qui dérange aujourd'hui, c'est vraiment de dire que ça, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Je pense que je vous ai déjà raconté de mon expérience quand, à la radio à Montréal, on avait fait une série, on appelait ça la minute de vérité. Moi et un autre frère à Montréal, puis on avait des capsules d'une minute. On a acheté du temps de publicité à la radio. Grosse radio, la radio, c'était, je pense que c'était Cité Rock Détente, je ne me souviens plus exactement, là, mais quand même, c'était assez gros. Alors, ce qu'on s'est dit, on dit, tiens, on va acheter de la publicité, il ne devrait pas nous déranger dans le contenu de notre message, on achète la pub. Fait que ça avait coûté assez cher, 11 000 $ et tout ça. Fait que, ben non, ils ont reçu tellement d'appels, des centaines d'appels et tout ça. Même le président de la compagnie de radio, la présidente est venue nous voir, même pas nous autres, il est allé voir la responsable de la programmation et tout ça. Il dit, écoute, il dit, moi t'avoue quelque chose, il dit, il n'y a jamais aucune publicité qui a eu autant d'effet que ça, d'impact que ça. Il dit, c'est la publicité la plus efficace qu'on a jamais eue. En termes d'impact. Ça n'a pas dit que t'es positif. Il dit, puis il est venu nous voir, puis il nous a demandé d'enlever un mot sur tout ce qu'on disait. Tout ce qu'on disait, là. C'était le mot quoi? Vérité. La vérité. Et mon ami. La minute de la vérité. Hey, ça les fatiguait, ça brassait la radio. On a bouleversé le monde de la radio, radiophonique avec ça. Et puis, bon, OK. Hey, ça dérange. Mais Dieu est la vérité. Il est la vérité absolue, ultime, éternelle. La vérité de Dieu va se distinguer dans ce qui est relatif, partiel, temporel, mais Dieu, lui, c'est la vérité. Et c'est ce qui explique que Dieu peut pas mentir. C'est d'aller contre sa nature. Il peut pas mentir, Dieu. Ça dirait à l'encontre de ce qu'il est, de son essence. Il est vérité. Alors, lorsque on nous dit « soyez honnête », enfin, ce qu'on est en train de nous dire, soit comme Dieu, soit comme le Seigneur lui-même est honnête, intègre, il est vrai, c'est la vérité. L'honnêteté relève de l'une de ses perfections, de ses qualités. Et c'est le point que Jean veut faire ressortir au verset 5 lorsqu'il dit « Dieu est lumière » et « il n'y a pas en lui de ténèbres ». Alors, qu'est-ce que ça signifie être honnête? Eh bien, 1 Jean 1, 10 dit ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Le problème avec le cœur de l'homme, c'est pas seulement qu'on est malhonnête, qu'il y a une malhonnêteté. C'est pas seulement ça. Mais la malhonnêteté s'enracine dans l'idée que Dieu est menteur. La malhonnêteté commence lorsqu'on ne fait pas confiance à Dieu et on se méfie de lui. Regardez ce qui s'est produit avec Adam et Ève. Ils vivaient une relation parfaite avec Dieu. Et tout d'un coup, Satan se présente, se pointe le nez, Satan arrive, puis la première tentation qu'il envoie est en rapport avec la vérité. Première tentation, c'était pas de manger le fruit défendu. Il a commencé à jouer sur cette question-là. Est-ce que tu peux vraiment faire confiance à Dieu? Est-ce que Dieu est pas en train vraiment de te mentir un petit peu, là? Dans la Genèse, on nous dit que le diable est venu comme un serpent. Il est dit dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors le diable dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Dieu a dit ça, mais c'est pas vrai. En fond, c'est ça. Hein? Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a laissé entendre que Dieu était menteur. Il a attaqué l'intégrité de Dieu. Premier péché qui est entré dans le monde, n'était pas d'avoir mangé le fruit défendu, mais de croire que Dieu était un menteur. La malhonnêteté de l'homme commence dès l'instant où on commence à se méfier de l'honnêteté de Dieu. Et c'est très profond. Tu deviens un menteur dès l'instant que tu crois que Dieu est un menteur. L'inverse est aussi vrai. Dans la mesure que tu crois Dieu, tu seras de plus en plus vrai et moins capable de mentir. La première tentation était donc de douter de la véracité de Dieu. Et Satan accuse Dieu de tromperie. Le premier péché provient directement de la croyance que Dieu est un menteur. Et depuis ce jour, le péché de douter la parole de Dieu ou de la vérité est à la base de tous les autres péchés. Regardez avant. Adam avait une relation parfaite, autant avec sa femme qu'avec Dieu. Mais lorsqu'il a commencé à se méfier de Dieu, à croire que Dieu était menteur, c'est là que le péché est rentré dans le monde. Chaque péché, incluant notre propre malhonnêteté, provient de notre méfiance en Dieu. On doute qu'il va être fidèle à remplir ses promesses. Chaque péché provient du fait que nous croyons au mensonge plutôt qu'à la vérité. On arrive à croire que quelque chose d'autre que Dieu pourra nous satisfaire. Regardez le péché, la tentation de Satan, c'est qu'ils deviennent des dieux. On veut être des dieux, le premier. Quelque chose d'autre va arriver à me satisfaire que Dieu. Et ça, c'est un gros mensonge. Ça, c'est un mensonge qui est là. On croit un mensonge. Si on regarde nos problèmes à la loupe, on commence à déterrer, puis on creuse, on regarde à la loupe, on va voir qu'à la racine, à la base, on croit un gros mensonge dans notre vie. On croit ce mensonge-là. Regardez l'inquiétude, par exemple. Quand on s'inquiète, qu'est-ce qui se passe vraiment? Lorsqu'on s'inquiète, il y a comme un enregistrement qui joue dans notre tête, dans le fond. Puis ça dit quoi? Moi, je ferais bien mieux que Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Je suis en train de vivre ça, mais à quelque part dans notre tête, on ne le dit peut-être pas explicitement comme ça, mais à quelque part dans nos tripes, on est en train de se dire, bien, moi, je ferais une bien meilleure job que Dieu. Ça ne devrait pas arriver, ça, dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça dans ma vie. Comment ça se fait? Et on est en train, finalement, de se méfier de Dieu. Et lorsque Dieu, on est en train même de le traiter de menteur. On ne dirait jamais comme ça. Mais au fond, nous, à la racine, la cause racine, c'est quoi? C'est qu'on croit que Dieu est menteur. Que lorsque Dieu promet qu'il va s'occuper de nous, qu'il a tout, qu'il est souverain, qu'il contrôle tout, je crois pas à ça. Voyez-vous, on est en train de croire à un mensonge au fond de nous, que Dieu est menteur. Moi, si j'étais en charge, ce serait vraiment différent. Moi, je ferais des affaires pas mal différentes que Dieu. Il me semble que Dieu, là, n'est pas au contrôle vraiment. J'aurais pas des problèmes que j'ai présentement. Et on s'inquiète au fond que Dieu n'arrivera pas vraiment à s'occuper de nous correctement. C'est ce qui arrive quand on s'inquiète. On se dit, je m'inquiète, mais au fond, le problème à la base, c'est que je suis contrôlé par un mensonge. Alors ça, c'est vraiment un principe bien important qu'on a besoin de réaliser. À mesure que je réussis à déraciner le mensonge qui se loge au fond de moi, là, je vais pouvoir obéir Dieu librement. Là, je vais pouvoir mener une vie de gloire, d'honnêteté puis de courage. Mais il faut que je déracine ces mensonges qui sont là, très profonds, au fond de moi. La source de nos problèmes, la cause racine de tous nos problèmes, c'est le doute, la méfiance, l'incrédulité. Nous croyons que Dieu est menteur. On ne dirait pas ici aussi explicitement que ça, mais c'est ce qui arrive au fond. Et tous nos péchés viennent de là, découlent de là. Et Jésus appelle le diable le père du mensonge. Par exemple, dans Jean 8, 44, il est dit, lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et il est le père du mensonge. Et c'est vraiment intéressant parce que, vous savez, dans le temps des puritains, il y a plusieurs années de ça, il y a des puritains qui ont écrit des volumes et tout ça. Puis un des puritains, il s'appelle Thomas Brooks, il a écrit un gros volume. Justement, sur cette question-là, il parle des mensonges que le diable va nous donner dans notre vie, puis auxquels on va croire, puis ça va tout, ça va nous démolir. Mais il a écrit un gros livre qui s'appelle Remède, en 1652, il a écrit un livre qui s'appelle Remède contre les ruses de Satan. Il dit, le diable, c'est le père du mensonge. Alors, ce qu'il fait pour nous démolir notre vie, c'est de se servir du mensonge. Puis là, il fait état de quelques mensonges que le diable va se servir dans notre vie pour nous démolir, puis on va croire à ces mensonges-là, puis ça va nous démolir, ça va nous rendre à l'envers, puis il donne plusieurs exemples. Laisse-moi juste en donner un, je vais vous en donner un par exemple. On n'aura vraiment pas le temps de tout exposer ce qu'il dit, mais essentiellement, on en prend un. La question du mensonge, comment le mensonge va venir nous affecter, nous démolir, dans un aspect de notre vie. Il dit, le diable nous garde tristes, méfiants, nous garde dans un questionnement perpétuel en nous incitant à penser plus à notre péché qu'à notre sauveur. Il dit, c'est un problème majeur. Il dit, les gens sont souvent écrasés, leur vie est misérable, ils vivent dans le doute, la culpabilité et dans la dépression. Parce qu'ils voient leur péché plus clairement que leur sauveur. Il dit, quoi faire? Demande Brooks. Il répond en disant, le remède pour un chrétien faible qui se sent comme ça, il doit réaliser que même si Jésus ne les a pas libérés de la présence du péché, il les a libérés du pouvoir de la condamnation du péché. Et on a besoin de croire à ça. Oui, amen. Romains 8:1 l'a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi, dit-il, il poursuit en disant, la loi ne peut pas vous condamner. Elle est là, le péché est présent, mais le péché ne peut pas vous condamner. Alors, il dit, déracinons le mensonge. Il continue en disant, le péché ne peut pas vous priver de Dieu. Il dit, la loi ne peut condamner le croyant puisque Jésus l'a accompli pour lui. Jésus a accompli la loi pour toi et pour moi. La justice divine ne peut nous condamner puisque Jésus l'a satisfaite. Nos péchés ne peuvent nous condamner parce qu'ils sont pardonnés par le sang de Christ. Et notre propre conscience ne peut nous condamner parce que Jésus est plus grand que la conscience et nous a acquittés. Qu'est-ce que Brooks est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que vous et moi, nous avons besoin d'insérer la vérité au centre de notre vie, au centre de notre être. La raison pour laquelle on se sent si abattu, c'est qu'on croit à un mensonge. On regarde nos péchés plus souvent qu'on regarde notre sauveur. Et il dit, il faut se repentir de ce péché-là. Avant même du péché, il faut se repentir du péché qu'on est en train de douter du Seigneur, en fait. Il dit, il faut se repentir de ce péché et nous aurons la liberté. Notre péché, poursuit Brooks, vient du fait que l'on ignore toute la richesse, la liberté, la plénitude, l'amour éternel de Dieu. On ignore la puissance, la gloire, la suffisance et l'efficacité de la mort et des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là. Voilà notre péché. Le péché vient du fait que l'on ignore la beauté, la splendeur, la gloire, la suffisance et l'efficacité de la mort et des souffrances de notre Seigneur Jésus. Quand tu regardes ton péché, puis tu dis, bon sang, j'ai pas d'allure, je suis tout croche, Dieu ne voudra pas de moi, je pensais bon pour lui. Quand tu es en train de parler de même, il dit le vrai péché derrière cela, c'est de ne pas avoir assez confiance à la puissance et à l'efficacité de l'amour éternel de Dieu. Notre péché, de croire que notre péché surpasse les desseins pour nous et que Dieu est ce que Dieu veut pour nous. C'est la gloire et c'est de nous aimer. Brooks est en train de nous dire que tous nos problèmes relèvent vraiment qu'on croit des mensonges. Et au bout du compte, ça relève qu'on ne croit pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Une vie d'intégrité commence quand on prend Dieu au mot et qu'on lui fait confiance. Quoi faire quand je doute? Regardez bien la solution. Quoi faire quand je doute? Quoi faire quand j'ai peur? Quand tu doutes, doute. En d'autres mots, doute de tes doutes. Il y a un mensonge, là. Il y a un mensonge. Doute tes doutes et crois Dieu. Est-ce que j'entends des amen? Tu vas-tu commencer à faire ça cette semaine? Quand tu commences à douter, tu commences à t'inquiéter, tout de suite, oh, je me crois pas. On fait ça cette semaine? Parce qu'on croit à un mensonge. Et nos péchés découlent de ce mensonge-là et de croire au mensonge. Donc, doute tes doutes et crois Dieu. C'est ça qu'on a besoin. Hein? 1 Jean 1, 6 dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous mettons pas la vérité en pratique. On dit une chose, mais on fait le contraire. Si on dit aux autres que nous sommes des enfants de Dieu, les chrétiens, les disciples, mais notre vie ne va pas avec ce qu'on dit, ça fonctionne pas. On vit dans un mensonge. Une personne intègre, c'est une personne qui est vraie autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Partout. Vous allez n'importe où. J'aime bien la façon qu'un autre puritain, William Gurnall, l'a dit. Ils ont des façons de l'exprimer. Ça fait drôle. C'est des mots bizarres, mais vous allez, soyez patients avec moi. Écoute, ça parle du 17e siècle. Des mots. Il vous dit, écoutez, il dit William Gurnall, un puritain, disait, la sincérité, dans le fond, se détecte par trois choses. Il dit sa nouveauté, sa simplicité puis sa similitude. Je sais que ça vous excite pas vraiment, là, mais soyez patients avec moi. Vous allez voir, ça a bien d'allure, finalement. Il dit, OK, il dit, si une personne est sincère, ça signifie qu'elle n'est pas hypocrite. C'est ce que ça veut dire. Il dit, premièrement, il dit, une personne sincère est marquée par la nouveauté. D'accord? Voici comment Gurnall l'explique. La nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe en toi, là, quand tu deviens au Seigneur. L'affaire que tout d'un coup, tu deviens conscient. Puis regardez bien ça, c'est vraiment, je trouvais ça cute. Il dit, une façon de savoir que tu n'es pas hypocrite, c'est en sachant que tu en étais un, puis, dans le passé, puis tu luttes encore aujourd'hui à la possibilité d'être un hypocrite. Il dit ça, c'est pas un hypocrite. Un hypocrite qui sait qu'il est hypocrite, qui était hypocrite, puis qui lutte encore avec l'hypocrisie. Hey, ça, c'est pas un hypocrite. Tu sais que t'es pas un hypocrite. Si tu sais que t'es un hypocrite, puis tu luttes encore avec l'hypocrisie. Ça a-tu de l'allure, cette affaire-là? Je pense qu'il va que je m'écoute après pour savoir, donc, qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Doute tes doutes! Les vrais hypocrites n'ont aucune idée qu'ils sont hypocrites. Ça, c'est les vrais hypocrites. Tu vois, quelqu'un dit qu'il y a de l'hypocrisie, puis ça, il dit, moi, hypocrite. Ben, regarde, là, je suis pas hypocrite. Ah, il dit, bien, ouais, vois-tu, t'es un hypocrite. Un vrai hypocrite n'a aucune espèce d'idée que c'est un hypocrite. Le fait de savoir que tu luttes avec l'hypocrisie, fais-toi une personne qui n'est pas hypocrite. Les vrais hypocrites vont dire qu'ils sont pas hypocrites. C'est comme ça qu'on connaît un vrai hypocrite. Mais la façon de savoir que tu n'es pas un hypocrite, c'est parce que tu sais que tu en étais un. Puis qu'il y a encore beaucoup d'hypocrisie en toi. C'est pour ça que moi, ça me renverse quand les gens disent, écoute, moi, je veux pas aller à ton église parce qu'il y a des hypocrites là-dedans. Je dis, mais ça, il y en a. On est plein d'hypocrites chez nous. C'est vrai. Mais on n'est pas hypocrite dans le fond. Dans le fond, je pourrais dire, écoute, il n'y en a pas d'hypocrite chez nous. Parce que nous autres, on sait tous qu'on est hypocrite. Hein? Là, je m'en viens bizarre, là. Hein? J'ai pris mes vitamines ce matin, puis là. Hey, le docteur Adrian Robinson, ça avait tellement surpris. Je vous l'ai dit, puis je trouve que je pensais à ça cette semaine, là, je préparais ce message-là, puis c'est tellement vrai. Docteur Adrian Robinson, écoute, c'est un des hommes, même The Times parlait de lui, un des hommes les plus influents aux États-Unis, comme ouvrier, pasteur et tout ça. Un homme de Dieu, moi j'ai étudié 3 ans avec lui, Adrian Robinson, puis il a dit ceci. Hey, un homme de même te dit ça, sais-tu, moi ça m'a fait tellement du bien. Il a dit, moi je me rappelle pas d'avoir fait une seule chose dans ma vie que mes motifs étaient 100% purs. Et on était 24 étudiants dans la classe, moi. Deux. Puis à quelque part, c'est tellement rafraîchissant. Hein? Tu ne trouves pas à quelque part, tu te dis, un autre. T'as un homme de Dieu qui dit ça. À lui, ce n'est pas un hypocrite. Je le sais. Hey. Parce qu'il sait qu'il est avec ça. Le point de Gurnall, c'est le fait que tu peux savoir que l'intégrité se développe en toi. C'est que tu sais que l'intégrité est quelque chose de nouveau pour toi. Si tu vas faire des affaires, là, intègre, ça a tellement pas d'allure. Moi, je me rappelle d'avoir été au restaurant avec un frère, c'est un homme d'affaires. Je m'en vais au restaurant avec lui, puis là, vous savez comment c'est, hein? T'es un gars d'affaires, tu demandes des reçus, puis la madame, la caissière, est tellement habituée d'avoir les reçus, puis même, tu sais, des fois, mousser les reçus, là, ton dîner doit coûter 12,95, on va te mettre 25 $, là. Puis ça se fait couramment, puis tu donnes ça à tes impôts, des dépenses, tout ça, tu sais. Hey, moi, j'ai vu un chrétien, là, j'étais avec lui dans sa voiture, on s'en va au restaurant, puis ça, puis on sort. Puis dans la voiture, on roule, là, à quelques kilomètres plus loin, on roule. Puis là, il se rend compte que dans la facture, la madame a pas, sur le reçu, il s'est rendu compte que le montant n'était pas vrai. Croyez-le ou non, il a fait demi-tour. On était à des kilomètres plus loin, il a fait un demi-tour, il est revenu voir la caissière, puis il a dit, pouvez-vous corriger ça, s'il vous plaît, c'est pas vraiment le bon montant. C'était le montant. Puis, de fait, avec beaucoup de délicatesse, il n'a pas dit, hey, t'es donc bien croque. Il n'a absolument pas fait ça. Il était bien délicat, mais il a quand même dit, la femme était là. L'intégrité. Est-ce que je peux te dire que ce gars-là n'aurait jamais fait ça avant, de devenir un enfant de Dieu? Il se passe des affaires bizarres lorsque tu viens au Seigneur, c'est que le Seigneur commence à te rendre conscient du péché, puis tu deviens intègre dans une mesure que tu ne l'étais pas avant. Aussitôt qu'une personne vous dit, donc plutôt, cette nouveauté dans sa vie, la nouveauté qu'on a dans notre vie, quand on vient au Seigneur, cette nouveauté, il y a une fraîcheur, il y a une nouveauté là. On se reconnaît pécheur. On sait que notre cœur est tortueux. Et c'est le point d'un Jean 8. C'est ça que Jean est en train de dire. Au gnostique, mais il est en train de nous dire ça à nous autres aussi. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors, une personne sincère est marquée par la nouveauté. Deuxièmement, une personne sincère est marquée par la simplicité. Quand les puritains parlent de simplicité, ce qu'ils avaient en tête, c'était un livre ouvert. C'était un livre ouvert avec Dieu, un livre ouvert avec les autres, un livre ouvert avec ta femme, avec ton mari, un livre ouvert avec toi-même aussi. Tu ne te comptes pas des histoires. C'est un livre ouvert. Un livre ouvert avec Dieu signifie que tu es prêt à reconnaître devant Dieu, du Seigneur, moi je suis un pécheur. Moi, je ne veux pas jouer de game. J'ai un livre ouvert, Seigneur, tu sais, tu me connais, je suis un pécheur. Je lutte avec mon péché, mes péchés. Puis un livre ouvert avec les autres signifie que tu es capable de prendre la critique. Que lorsqu'une personne vient te voir, puis dit, sais-tu, ça me préoccupe, je fais pour toi, je vois ça dans ta vie, etc. Et ton souci de marcher dans la vérité, dans l'intégrité, est tellement fort que tu acceptes cette critique-là. Et des fois, c'est sûr qu'on peut être gauche. Parce que des fois même, on est gauche parce qu'on ne sait pas comment le dire. Des fois, on est mal à l'aise, puis tout ça, puis tu as quelque chose qui est sur ton cœur, un fardeau, un poids, tu veux partager à un frère, t'es dérangé par un péché qui est là, puis tu sais qu'il ne sera pas bien dans ce péché-là, puis ça ne glorifie pas Dieu. Et tu veux lui partager, puis tu cherches les mots. Comment c'est quoi les mots idéaux, tu sais? Tu communiques une critique. T'sais. Tu veux faire avec un esprit de douceur, mais des fois, c'est sûr qu'il y a des mots qui seront peut-être mal compris, tout ça, mal compris. Mais tu le fais. Mais vois-tu, lorsque tu es un livre ouvert avec les autres, tu es prêt à prendre la critique. Parce que ton souci, c'est d'être intègre. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux laisser la vérité de la parole de Dieu sonder ton cœur, examiner ton cœur, faire le tri, déraciner le mensonge. C'est d'être disposé à dire, je veux que le Seigneur sonde mon cœur et me révèle mes fautes cachées. Je veux vraiment les voir. Alors, une personne sincère est marquée par la nouveauté, la simplicité, aussi la similitude. il va être cohérent dans sa vie. Il sera pas d'une manière chez lui et une autre manière à son travail. Tout ça. Il y a une cohérence. Il y a une similitude partout. Tu peux regarder n'importe quelle facette de sa vie, que ce soit sa vie privée ou son travail. Il y a toujours une intégrité qui est là. Alors, comment cultiver l'intégrité? 1 Jean 2,8 dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. Comment on cultive la bienveillance, l'intégrité, la vérité? Mais premièrement, soyez honnête envers vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, Martin Luther disait, c'est la repentance. La meilleure façon de développer un style de vie dans la vérité est d'adopter un style de vie de repentance. Martin Luther disait, toute la vie est repentance. D'ailleurs, c'est la première de ces 95 thèses qui a accroché aux portes de Wittenberg là, au début de la réforme protestante. La repentance de nos péchés est ce qui nous procure la joie. La journée que tu penses, tu n'as plus besoin de repentance, c'est la journée que tu seras plus intègre. Nous avons besoin de repentance à tous les jours. Tous les jours, la repentance est ce qui nous permet de retracer les mensonges qui nous contrôlent. Et la raison pour laquelle on peut être honnête, se repentir, c'est qu'on n'a rien à cacher, voyons donc. Penses-tu cacher quelque chose à Dieu? Dieu sait tout. Dieu connaît même les péchés que tu n'as même pas encore faits. Réalise-tu ça que Dieu sait les péchés que tu vas faire dans 20 ans et dans 10 ans? Puis t'acceptes déjà à travers Jésus-Christ. Il t'accepte déjà sachant ce que tu vas faire dans 20 ans. Tu es déjà accepté à travers Jésus-Christ. Hébreux 4, 13 le dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais si vous êtes caché en Jésus, vous n'avez plus à vous cacher, parce que Dieu t'aime et t'accepte. Alors cessons de nous cacher, bien-aimés. Le verdict est entré, et c'est le seul verdict qui compte. Dieu a déjà prononcé le verdict à l'endroit de son Fils. Et il a dit ceci, dans Matthieu 3, il dit ceci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en lui. Nous sommes cachés en Jésus. Alors, nous arrachons les mensonges de nos vies et on veut vivre dans l'intégrité, la bienfaisance et la fidélité. Alors, soyons intègres. Marchons dans l'intégrité. Poursuivons l'intégrité. Le puritain Thomas Brooks a dit ceci. Il dit, « Satan promet le meilleur, mais paye le pire. Il promet l'honneur, mais paye avec la honte. Il promet le plaisir, mais paye avec la peine. » Il promet le profit, mais paye avec les pertes. Il promet la vie, mais paye avec la mort. Mais Dieu paye ce qu'il promet. Et toutes ses rémunérations sont faites en or pur. Amen. Ah, prions, Seigneur. Nous voulons tellement te remercier, Seigneur. On peut se coller à toi, on peut dépendre de toi, on peut te faire confiance. Et merci. Merci que le verdict est déjà prononcé sur Christ. Nous sommes acceptés en lui. Tu nous aimes, tu nous acceptes, tu nous as pardonnés, tu nous as adoptés, justifiés. Tu nous sanctifies, tu vas nous glorifier. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu as les paroles de la vérité. Alors aide-nous cette semaine à marcher dans l'intégrité, à déraciner les mensonges que l'on croit, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.